Monsieur le maire va vous présenter mes amis, les anciens, qui ont vécu des jours historiques dans cette commune et à différents endroits, avec une mémoire hors du commun. Je vous remercie d'être venus si nombreux et nous témoigner, pour nous témoigner tout ce que vous voyez, et surtout je remercie encore les drapeaux qui se déplacent de très loin. Je passe la parole à Monsieur le maire pour présenter mes amis.
Oui, c'est une réunion un peu particulière puisque, comme vous le savez, chaque année, nous célébrons par des cérémonies plus ou moins importantes selon les années, le débarquement, c'est-à-dire essentiellement les événements militaires. Aujourd'hui, la volonté de l'association Les Liens de l'Histoire a été d'organiser cette réunion, bien sûr sans oublier les événements militaires, mais en consacrant l'essentiel de notre manifestation aux victimes civiles, aux populations civiles qui ont vécu ces événements, de l'autre côté, si j'ose dire, mais qui en ont gardé souvent des souvenirs extrêmement précis. Sachant que, pour les témoins de l'époque, les choses n'ont pas commencé le 6 juin. La guerre est arrivée et les a marqués bien avant le 6 juin. Alors, c'est pourquoi nous nous efforcerons, je vais m'efforcer de définir un fil, en quelque sorte, un fil rouge, et lorsque certains d'entre vous, parce que je sais ce que vous avez vécu, pourront apporter des précisions ou des témoignages plus concrets, je leur donnerai la parole. Nous essaierons de le faire en deux temps. Un premier temps sur avant le débarquement, c'est-à-dire les civils sous l'occupation, et puis, dans un deuxième temps, le débarquement et la façon dont il a été vécu par ceux qui étaient là à cette époque. Alors, ces témoins, c'est... il n'est pas là comme lequel ?
Non. Il a peut-être eu, parce que on n'est pas tous les jours en forme, alors...
Monsieur Breveté.
Monsieur Breveté, non.
Il n'est pas dans la salle ? Ah. Désiré d'Agent Lamarre, tout le monde le connaît. Lui... Il était un garçon qui allait à l'école à l'époque avec M. Longuet et qui a vécu ces événements en gardant des souvenirs très précis puisqu'il a pris des notes sur son petit carnet bien connu. Je lui donnerai la parole tout à l'heure quand nous parlerons du débarquement. Madame Le Chevalier née Le Breton à Ouistreham qui, elle, a vécu cette période et peut nous parler de la vie des civils, de la façon dont ils s'approvisionnaient, c'était une période particulièrement difficile. Je lui donnerai la parole également en un temps où je viendrai dans mon exposé. Madame Blanche Boulet, plus connue sous le nom de Vaudeville, qui faisait partie du poste de secours de l'Accalmie avec le docteur Poulain et qui a soigné les blessés. Et là, nous retrouvons au moment du débarquement et les blessés, des bombardements, de l'artillerie, etc., et des premiers soldats. Monsieur Yves Dunel, qui était fils de cultivateur, qui nous parlera de la façon dont les agriculteurs, avec leurs attelages, étaient réquisitionnés pour transporter des choses pour le mur de l'Atlantique et la défense des plages. Madame Jacqueline Collin, qui était écolière à Ouistreham, qui nous parlera...
Elle n'est pas là.
Et Madame Rousselin, qui, elle, a vécu ces moments chez Monsieur Marcel Lefebvre, et qui nous parlera, sans doute, de Marcel Lefebvre, mais également du 6 juin. Alors, si vous voulez, je vais... C'est un exercice un peu difficile, puisqu'il faut à la fois donner la parole aux témoins, mais en même temps replacer ces témoignages dans un fil historique qui rappelle un certain nombre d'événements que beaucoup connaissent, mais pas forcément. À l'époque, au moment de la déclaration de la guerre, Ouistreham, c'est une ville de 3000 habitants. C'est donc trois fois moins qu'aujourd'hui, mais c'est déjà une station balnéaire connue, Riva. C'est aussi un port de pêche. C'est aussi un port où il y a des installations de l'équipement, des ponts et chaussées, etc. Mais lorsque la guerre commence, c'est une population qui se trouve réduite forcément parce que tronquée. À l'époque, tous les hommes de 20 à 40 ans, et parfois un peu plus, sont mobilisés, puisque nous sommes dans un temps où l'armée est une armée de conscription, comme on dit, depuis la Révolution française, et tous les hommes ont fait leur service militaire, sauf ceux qui sont exemptés pour des raisons diverses, parfois conséquences de la guerre de 14, ou qui sont réformés pour des raisons d'infirmité ou de maladie. Tous les hommes, donc, en âge d'être mobilisés, sont mobilisés, soit dans le service actif, c'est-à-dire les combattants, soit dans le service auxiliaire, pour ceux qui n'ont pas la santé. Mais ça représente, vous imaginez, toute cette tranche d'âge de 20 à 40 ans, les hommes ne sont plus là, sauf quelques exceptions. Exception également, mais c'est nouveau avec la guerre de 39-40, ceux que l'on appelait les affectés spéciaux, c'est-à-dire des hommes théoriquement mobilisables, mais qui, pour des raisons d'ordre économique surtout, étaient affectés dans leur activité civile parce que nécessaire au fonctionnement des usines ou au fonctionnement du chemin de fer, à un certain nombre de fonctionnements comme cela. Ils sont d'ailleurs souvent appelés d'une façon un peu désagréable les embusqués, comme on disait à l'époque, les embusqués. Les hommes étaient également réquisitionnés, on le sait moins, mais comme boucliers humains. C'est ainsi, par exemple, qu'après les sabotages d'Héran qui avaient fait dérailler des trains de permissionnaires allemands, les Allemands réquisitionnaient des hommes toutes les nuits. Ces trains étaient des trains de nuit qui transportaient les permissionnaires de Maastricht vers Cherbourg. Et donc, tous les jours, les maires devaient fournir la liste des hommes qui accompagnaient les trains. Il y avait devant la locomotive un wagon dans lequel étaient des Français qui étaient là en bouclier humain, en quelque sorte, pour faire en sorte que les sabotages soient autant que possible évités. Et puis également, moi je me souviens, à 40 ans, la voie ferrée, il y avait également des hommes réquisitionnés toutes les nuits pour assurer la garde le long des voies. Et à tour de rôle, toutes les nuits, ils patrouillaient le long des voies. C'était harassant, fatigant, désagréable sans doute, mais surtout dangereux, parce que s'il se produisait quelque chose, ces hommes étaient responsables et par conséquent pouvaient être sanctionnés. Réquisition également des maisons, car évidemment, des maisons et tous les bâtiments publics, les écoles. Moi, pendant la guerre, je ne suis pas allé à l'école, dans les écoles de 40 ans. Quand on parle de l'école, souvent dans ses souvenirs, on évoque sa petite école, sa cloche, tout cela. Moi, je n'ai pas ça. Parce que moi, je suis allé à l'école dans une maison, le long de la Javel, comme on disait, et qui avait d'ailleurs été assez endommagée par les bombardements à l'arrivée des Allemands. Et puis après dans un magasin de chaussures, et puis après au Hara, la station de remonte à 40 ans, et puis chez le pelletier industriel. Bref, l'école avait lieu là où la mairie pouvait trouver des locaux pour installer les gosses et les enseignants. Car les écoles étaient évidemment occupées par l'armée allemande, car ce n'était pas vrai dans l'ensemble de toute la France. Mais sur la côte, du fait évidemment d'abord de la perspective de débarquement, mais surtout débarquement en Angleterre en 40, hein. Et puis ensuite le risque de voir le débarquement, la côte, toute la zone côtière était fortement occupée par par l'armée allemande, et cette armée est logée dans les écoles, dans les salles publiques, et même en particulier pour les officiers, c'était la réquisition des chambres dans les maisons.